Vous allez bien? Oui, vous imaginez qu'il y a quelqu'un qui dit « Non, moi ça va pas, je vais vous expliquer pourquoi, tout. » Il prend le micro et commence à nous raconter pendant 2 heures. C'est drôle, hein, cette histoire de « ça va bien ?» Oui, comment ça va? Ça va, merci Seigneur. Et même quand ça va pas, qu'est-ce qu'on dit? Ça va. Rappelez de cette femme qui avait perdu son enfant, son mari était dans les champs, il savait rien. Elle a posé l'enfant sur le lit, elle a fermé la porte. Elle prend les chevaux, elle s'en va avec un char. Son mari lui dit, tu vas où, qu'est-ce qu'il y a? T'inquiète pas, tout va bien. Elle allait voir le prophète. Elle allait voir le prophète. Alors dans son cœur, c'est tout va bien. C'est-à-dire que ça ne peut aller que bien quand on va trouver Dieu. Alors, le prophète est venu. Il s'est étendu sur l'enfant, sa bouche sur la bouche, les mains sur les mains. Et l'enfant est revenu à la vie. Amen. Si quelque chose dans votre vie est mort, ne dites pas, oh, ça va pas, oh, c'est épouvantable, comment je vais m'en sortir, c'est affreux. Non, dites, tout va bien, et allez voir l'homme de Dieu. Allez voir l'homme de Dieu. Voilà, moi, que ce ne soit pas un homme de Dieu, que ce soit un rigolo, un charlatan, ce matin, on va parler de ça un petit peu, au sujet des serviteurs de Dieu. Là, j'ai eu des problèmes cette semaine, ça s'entend dans ma prédication, vous allez voir. J'ai eu un religieux qui m'a tué pendant 1 heure et demie. Je suis ressorti avec une tête au carré, mais j'ai dû prendre 2 aspirines 1000 pour m'en sortir. Ah, oh, mon Dieu, qu'ils sont bêtes et méchants. C'est terrible, terrible. Pas tous, évidemment, pas tous, mais il y en a quand même beaucoup. C'est terrible d'être comme ça. On va lire Genèse 2, chapitre 1, verset 3. Il faut que le peuple sache que les hommes et les femmes qui font profession de servir Dieu ne sont pas parfaits. Et il y en a même, ils exagèrent vraiment, hein, ils ne font aucune attention. Donc il faut reprendre ces choses-là, il faut corriger ces choses-là, il ne faut pas se laisser impressionner par ceux qui ont des titres, il ne faut pas leur faire des courbettes, il faut leur dire ce qu'ils ont besoin d'entendre, ça leur fait du bien et ça fait du bien au peuple de Dieu, parce que beaucoup trop longtemps, ils ont fait croire qu'ils étaient quelque chose de saint et ils ont abusé de leur pouvoir pour ennuyer beaucoup de monde. Ils ont brûlé, ils ont massacré, ils ont torturé, ça continue encore dans certains pays, les malades. Genèse 2, 1, 3. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'il se repose depuis ce temps-là? Non, c'est juste reposer un jour. Et jusqu'à ce jour, il travaille, il travaille, il travaille, il travaille. Moi aussi. La sanctification du sabbat. Qu'est-ce que c'est le mot sanctification? Ça veut dire la mise à part. Sanctifier, c'est mettre à part. Quand vous allez au marché, que vous choisissez des avocats, mesdames, ou des pommes, ou des poires, ou des scoubidous, vous prenez ceux qui vous plaisent le plus, vous les sanctifiez, vous les mettez à part, pour une raison, pour quelque chose. En général, c'est pour les bouffer. Donc, la sanctification du sabbat, du shabbat. Ah oui, parce qu'attention, l'autre jour, je dis sabbat à une personne religieuse, elle me dit, c'est les satanistes qui disent sabbat, il faut dire shabbat. Oh là là. Elle me dit, oui, il ne faut pas dire sabbat, tu vas passer pour un sataniste. Oh là là, il faut encore faire attention si on dit che, si on dit ce, si on dit pff. Non, ras-le-bol. Moi, je dis comme je veux. Ça me sort comme ça veut, c'est tout. Moi, je sais que dans mon cœur, je ne suis pas un sataniste. D'accord? Et flûte pour les religieux. La sanctification du Shabbat était un commandement. C'était un commandement, un des plus importants que Dieu avait donné à Israël. Le jour du Shabbat, c'était un jour de repos pour le peuple de Dieu. Un jour de repos. C'est une bonne chose. Beaucoup de gens pensent que les lois sont faites pour nous embêter. Pas du tout. C'est toujours dans un bon but que Dieu donne des lois. C'était un jour qui caractérisait le peuple de Dieu par rapport à toutes les nations qui étaient autour. Ils trimaient tous les jours. Et là, non, il n'y avait personne qui avait le pouvoir de dire « Allez, il faut faire ci, il faut faire ça ». Non, les patrons, ils étaient sous la coupe de Dieu, la même chose que les ouvriers. Et puis, ils étaient obligés de laisser, n'est-ce pas, le peuple se reposer. Puis pas seulement le peuple, mais aussi les animaux, et puis particulièrement les femmes. Ça, c'est bon. Sainteté de sabbat, mise à part de ce jour, c'est devenu le signe de l'alliance entre le peuple de Dieu et son créateur. Pendant que les Juifs marchaient, quelques siècles après, dans le désert, vous avez tous vu les 10 commandements, alors ils marchaient entre l'Égypte et les... Je dis ça pour ceux qui ne lisent pas leur Bible, il y en a encore. ils étaient en train de traverser le désert entre l'Égypte et puis Israël, la terre promise. Et là, Dieu les a arrêtés à un moment donné tout près d'une montagne qui s'appelle le mont Sinaï. Il faudrait que j'y aille un jour à ce mont-là, parce que c'est formidable tout ce qui s'est passé là-bas. Et puis, il a officialisé ça. C'est devenu une loi afin que le peuple puisse avoir un jour de repos. Maintenant, on voudrait faire travailler tout le monde aussi le dimanche, n'importe les magasins, tout ça. Enfin, ils font comme ils veulent, hein. De toute façon, ils ne croient pas en Dieu, ils s'en fichent. Mais c'est bon d'avoir un jour de repos. Et puis de l'avoir tous ensemble pour qu'on puisse se retrouver, pour qu'on puisse louer Dieu ensemble, pour qu'on puisse... Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien. Dieu, donc, a écrit ça de sa main. Il a gravé ça de sa main sur des tables de pierre. Et des années après, le prophète Néhémie a réprimandé fortement le peuple parce que... il trichait avec le Shabbat. Et il leur a dit que voilà, les afflictions qu'ils étaient en train de vivre, c'était dû au fait qu'ils n'observaient pas correctement le sabbat. Vous trouverez ça dans Néhémie chapitre 8. Parce que c'est, ça a beau être une bonne loi, si on désobéit à la loi, on s'attire quoi? Le malheur, c'est sûr. C'est pas Dieu qui attend qu'on désobéisse pour nous taper, mais ça engendre toutes sortes de choses qui font que. D'accord? Ézéchiel, le prophète, plus tard encore, affirmait très clairement que l'institution du Shabbat était le signe de l'alliance entre Dieu et son peuple. Vous trouvez ça dans Ézéchiel 20, 12 à 24, c'est un long passage. Et il disait que le respect de ce jour, c'était une exigence impérieuse. On ne discutait pas là-dessus. Mais l'observance du Shabbat, il faut bien s'en souvenir, comme je vous le disais, c'était l'opposé de l'affliction. Ce n'était pas un truc pour vous embêter. C'était l'opposé du fardeau. Au contraire, le jour du Shabbat, c'était le jour où on se reposait, où on ne faisait rien. C'était un jour de fête, c'était un jour où on allait louer Dieu ensemble, et puis ensuite on mangeait, on buvait. Ce n'était pas un jour d'abstinence. Pas du tout. Ce n'était pas un jour où on prenait le sac et la cendre, et puis on se privait de tout. Pas du tout. On mangeait, on buvait. Mais ce qu'il y avait d'extraordinaire, ce qu'il y avait de formidable, c'est que ce jour-là, les femmes n'étaient pas obligées de turbiner à la cuisine pour faire la bouffe. Elles étaient tranquilles, elles n'avaient pas le droit de travailler. C'était bon ça, non? Ils faisaient le repas le jour avant, ils préparaient les sandwichs au porc. Ah non, pas au porc. Non, mais ils n'ont pas le droit au porc. Vous savez pourquoi ils n'ont pas le droit au porc? Pour qu'on en ait plus pour nous. Ce jour-là, c'était une aubaine. Pour les femmes, c'était formidable, pour les femmes, mais pour les hommes aussi. Et puis, vous savez, voilà, il n'y avait pas les syndicats qu'il y a aujourd'hui, donc c'était la loi de Dieu, c'était comme ça. C'était terrible, c'était très bien. Et les enfants, les animaux, tout le monde était content. Et puis, en plus de ce jour-là, il y avait une année sabbatique pour la terre. C'est-à-dire que pendant, au bout de 7 ans, ils devaient arrêter de cultiver la terre, et tout ça, c'était pour que la terre augmente en fertilité. Maintenant, la terre, on lui laisse jamais le temps de se reposer, et puis on la bourre de toutes sortes de pesticides, cochonneries et tout ça. Puis on dit, oui, bon, encore, les anciens avaient encore raison une fois de plus. Et puis, en plus de l'année sabbatique, lorsque 7 ans avaient passé, la 50e année, alors là, c'était super, c'était l'année où quelqu'un, par exemple, vous aviez une dette envers moi, elle sautait. Formidable, non? Formidable, 50 ans. On appelait ça, c'était une bonne chose. Les lois de Dieu sont des bonnes choses. Jubilé, on appelait ça. Tout ça, ça devait être fait avec bonté, avec miséricorde, mais avec justice. Dieu veillait là-dessus, au travers de ses serviteurs, pour que ça soit pratiqué. Et ça marchait, ça marchait. Donc, le Shabbat du Seigneur, c'était des périodes de délassement, de soulagement, de bénédiction, de joie, d'allégresse, de générosité, d'adoration. C'était un bon moment. Allez chez les Juifs le Shabbat, vous allez voir, ils rigolent bien. Là, ils bouffent bien, ils mettent des chandelles, ils mettent des machins, il y a tout un rituel, c'est super. Seulement voilà, ils chantent. Vous avez beaucoup de familles françaises qui font ça à table le dimanche, qui louent Dieu, qui chantent et tout. Non, les Juifs, oui, ils font ça toujours, parce que Moïse a dit, c'est bien. Voilà, seulement le problème, c'est que longtemps avant la venue de Jésus, déjà, le but originel du Shabbat a été oublié parce que des religieux, vous allez me dire que je bouffe tout le temps du religieux, pas tout le temps, C'est indigeste. Mais de temps en temps, il faut rappeler quand même. Il faut rappeler, ils existent. Vous lisez les Écritures, tout le long, vous avez ce problème avec les religieux. Jésus était gentil, sauf avec les religieux. Il n'avait jamais de problème, sauf avec les religieux. Les religieux, c'est la pire race qui existe. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous qui sommes chrétiens, faisons très attention de ne pas devenir des religieux. C'est une race de vipères, c'est abominable. Donc, ces religieux, ils avaient étouffé le bon but, n'est-ce pas, du Shabbat, sous des injonctions, sous un formalisme pas possible, des restrictions terribles, ils avaient rajouté. Maintenant, vous avez, chez certaines personnes, j'ai une de mes amies qui a travaillé chez des juifs, alors elle me disait, le jour avant, on coupe déjà le papier toilette, pour ne pas avoir à le couper le jour du Shabbat, parce que le jour du Shabbat, il ne faut rien faire. Alors, comme elle était la boniche, elle devait couper les morceaux de papier de toilette à l'avance pour que le jour du Shabbat... Vous voyez, ça va dans des détails, c'est infernal. Et encore, à la limite, on peut dire, si ça vient d'un bon cœur, c'est bien. Mais le fardeau que ces religieux mettaient sur le dos des gens était insupportable, méchant, stupide, bête, parce que, en fait... c'était la peine capitale pour celui qui profanait le Shabbat. Vous imaginez, pour un rouleau de papier de toilette? À l'époque, ils n'en avaient pas. Hein. Mais je vous dis, voilà, vous voyez un peu ce que c'est la peine capitale pour celui qui profanait le Shabbat. Et c'est ainsi que Jésus arrive dans ce monde avec tous ces religieux enturbanés. Et Jésus tombe rapidement, évidemment, sous la condamnation de ces fameux religieux, parce que alors lui, le Shabbat, c'est lui qui l'a inventé. Il est le maître du Shabbat. Souvenez-vous, il y avait un pauvre homme qui était malade depuis 38 ans. On pense qu'il devait être paralytique ou qu'il va avoir une arthrite pas possible qui l'empêchait de se remuer facilement. Certainement, il était paralysé. Et puis, il était là, on l'emmenait tous les jours à la piscine de Bethesda. À la piscine de Bethesda parce qu'il y avait une légende qui disait que de temps en temps, il y avait un ange qui venait dans la piscine, qui remuait l'eau. Et puis, quand l'eau était remuée, le premier qui se jetait dans la piscine était guéri. Oui, ça, moi, je ne peux pas dire que... Je ne crois pas que ça soit vraiment vrai. Je crois que c'est une légende, parce que ça ne ressemble pas à mon Dieu, ça. Je trouve que c'est méchant de dire, le premier qui saute dedans, il a gagné le gros lot. Je trouve que c'est mesquin. Je ne crois pas que ça vienne de Dieu. Je crois que c'est un machin un peu comme Lourdes. Vous voyez ce que je veux dire, ça, peut pas venir. Alors, de temps en temps, il y avait des trucs qui se passaient. Oui, comme à Lourdes, d'ailleurs, mais 54 miracles. C'est rien du tout. Enfin, bon, c'est pas mal, déjà, pour ceux qui ont été guéris. Mais c'est pas grand-chose, quand même, par rapport à tout ce que Dieu fait à l'heure actuelle. Hein. Donc, ces légendes, enfin, cet homme-là, c'est tout ce qu'il avait. Hein. C'est tout ce qu'il avait, donc il attendait, il disait, j'espère que quelqu'un va me pousser dedans, mais chaque fois que l'eau se mettait à bouger, il y en avait un qui sautait d'abord, et puis voilà, c'était fini pour lui. Et alors, il y avait beaucoup de gens malades, ils attendaient le moment du miracle. Et puis Jésus rentre là, dans cet endroit, il y avait un endroit, une espèce de portique, c'était un peu à l'ombre et tout ça, et puis il s'approche des gens, il les regarde, et vous savez que lui, il peut regarder dans les cœurs ce qui se passe. Alors, parmi tous ces gens qu'il voit là, il en voit un qui a un cœur qui est bien disposé à avoir la foi. Alors il s'approche de lui, et lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Il aurait pu répondre, « Non, je suis là pour faire un tennis. » Bien sûr que vous l'êtes guéri, bien sûr que vous l'êtes guéri, mais dans l'intonation de Jésus, ça l'a accroché. Et cette question, elle est restée plantée dans son cœur. Veux-tu être guéri? Oui, je veux, mais ce n'est pas possible, il n'y a personne qui veut. Il s'est dit, peut-être lui, il va me prendre soin de moi, il va m'aider, il va peut-être me pousser dans l'eau au bon moment. Alors, Jésus le regarde et lui dit, lève-toi, prends ton lit, pars, marche. La force qui était en Jésus sort de lui, rentre dans le paralytique, il sent ses membres qui se mettent à revivre, il bouge. Alors il se lève, et puis comme Jésus lui a dit de faire son lit, il fait son lit, prend son lit. Son lit, c'est une natte, hein, vous savez comment c'est. Il roule sa natte, pendant ce temps Jésus se tire dans la foule, ni vu ni connu. Et puis le type cherche, mais il est où Jésus? Il n'est plus là. Enfin d'abord, il ne savait même pas que c'était Jésus. Hein. Comment voulez-vous qu'il sache que c'était Jésus? Jésus n'était jamais venu dans ce coin-là, lui il était toujours fourré dans ce coin-là, il ne savait rien. Et puis, bon, il s'en va avec sa natte, tout content. Et où est-ce qu'il va? Eh bien, il va au temple, évidemment, parce qu'il se dit, c'est Dieu qui m'a guéri, je vais aller louer Dieu. Hein, je vais aller dans le temple, dans la maison de Dieu, comme nous faisons chaque semaine, on vient remercier Dieu ensemble dans le temple. Donc, il fonce dans le temple avec son lit sous le bras, et puis, oh, il n'a pas été bien loin, il n'a pas réussi à aller jusqu'au temple, parce que les renards, les gens bien pensants, étaient là. Hé, hey, toi là-bas, qu'est-ce que tu fous là? Tu portes ton lit le jour du sabbat, tu fais quoi là? T'es malade ou quoi? Ah non, justement, je ne suis plus malade. Celui qui m'a guéri m'a dit de prendre mon lit et de partir. Ah, mais c'est quoi ça? C'est qui qui a dit ça? Ben, j'en sais rien, je sais pas. Qui c'est qui m'a dit ça? Quand je me suis relevé après avoir roulé ma natte, il n'était plus là. Je sais pas qui c'est. Mais bon, alors, les gens commencent à avoir leur intérêt qui change de place. Ils s'en foutent après tout ce pauvre naze avec son plumard. Mais c'est qui a fait une chose pareille le jour du sabbat? Un médecin qui a travaillé? Un guérisseur qui a travaillé? Il a dû prendre du pognon, hein? Qu'est-ce que c'est ça? Et il le laisse tomber. Il le laisse tomber. Et puis l'homme, il continue son chemin, parce qu'il est tranquille maintenant. Et puis eux, ils se disent entre eux, bon, finalement, il n'y en a qu'un qui peut faire ça dans le coin, on sait bien qui c'est, hein? C'est Jésus. L'homme est en train de partir, il va vers le temple, et puis il avait dans son cœur, n'est-ce pas, de louer Dieu. Et puis, Jésus le rencontre, Jésus l'a fait exprès. Hein. Jésus connaît tout, il a fait exprès, il a monté cette mise en scène. Il arrive à dire, ah tiens, t'as retrouvé la santé, c'est bien, t'es content, c'est bien. Va, pêche plus, parce que t'as peur qu'il t'arrive pire. Vous voyez? Et notre homme, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne les talons, et il va vite dire à ceux qui lui avaient demandé qui c'est qui t'a guéri, il va vite aller leur raconter, non pas avec quelque chose de mauvais dans son cœur, mais il y va parce qu'il veut honorer la personne qui l'a guéri, et il va leur dire, voilà, c'est Jésus, je sais maintenant qui c'est qui m'a guéri, c'est Jésus, il est tout content, il est naïf, vous voyez les gens naïfs, ça n'a fait que de contribuer à augmenter la persécution, les problèmes contre Jésus, sa gentillesse. Les religieux se servent de tout, de la gentillesse des autres, de tout. Ils salissent tout, ils bousillent tout. Et ces gens-là disent, eh ben, il faut le mettre à mort. Pourquoi il faut le mettre à mort? Analysons un peu la chose. Au fait, qu'est-ce qu'il avait fait Jésus? Il avait parlé au bonhomme. Est-ce que c'est interdit dans la loi de parler le jour du sabbat? Non. Est-ce qu'il avait porté le lit? Non. Il avait dit de porter un lit. Vous vous rendez compte? Il ne pense pas une seule seconde au bienfait. Cet homme paralytique depuis 38 ans guérit. Alors là, ils s'en foutent complètement. Vous voyez la méchanceté de leur cœur. Ce qu'ils veulent, eux, c'est trouver un truc pour bousiller ce bonhomme qui est en train de leur faire de l'ombre, qui est en train de leur faire de la concurrence. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours ça. Ils ne sont pas méchants pour rien. Dans leur interprétation de la loi, ça leur semblait justifier leur interprétation, ça leur semblait justifier le fait qu'il fallait tuer Jésus. Finalement, ils trouvent Jésus. Et puis ils l'accusent. Alors Jésus leur répond, oh mais j'adore ce qu'il leur dit. Je vais vous dire mes frères et sœurs, grâce à ces crétins de religieux, ça nous a permis d'entendre le plus beau sermon de Jésus sur le sujet capital de qu'est-ce qu'est la relation entre le Père et le Fils. C'est le plus beau sermon que... Moi, à mon avis. Hein. La première chose qu'il leur dit, ça augmente encore leur colère. Vous voyez, il est comme moi, il est niaxe. Il augmente encore la colère. Il dit, oui, j'ai guéri cet homme, mon Père travaille jusqu'à présent, et moi aussi je travaille. Il dit ça pourquoi? C'est le Shabbat, on n'a pas le droit de travailler, et il est en train de leur dire que Dieu travaille. Donc ça veut dire, si moi je travaille, je suis comme Dieu, je suis libre du Shabbat. Oh! Ils sont... Vous savez, ce n'étaient pas des abrutis, les religieux. Vous ne pensez que c'était des abrutis, ce n'est pas parce qu'ils croyaient que la peine de mort pour un truc aussi stupide était bien que c'était des abrutis, c'était simplement des religieux. Quand on est religieux, on a quelque chose qui ne tourne pas rond dans la tête. Et là, ils comprennent très rapidement, parce qu'ils ne sont pas bêtes, que Jésus est en train de s'identifier à Dieu. Travaille le jour du repos. Et puis il dit que son travail et celui de son Père sont donc associés. C'est un blasphème terrible. C'est pire encore que de porter un lit le jour du Shabbat. Il fait exprès. Un, il viole le Shabbat. Deux, il dit que Dieu est son Père. Jamais personne n'avait dit ça. Donc, il se fait l'égal de Dieu, parce qu'un Dieu qui a un fils, son fils, c'est forcément un Dieu. Jésus continue. Il enfonce le clou quand il voit leur tête, il ne peut pas s'empêcher. Moi, j'adore Jésus. J'adore pas Jésus simplement, vous savez, d'une façon béate. Ah, je t'adore. J'adore pour ça. Sa façon de faire, comment il s'y prend, comment... Ah, il me fait tellement rire des moments. Il continue, il enfonce le clou. Au fait, il dit, je paraphrase, hein, mais il dit, vous lirez le texte, je ne peux rien faire à moins que ça soit conforme à la volonté de mon père. Ça veut dire que ce que j'ai fait, vous êtes contre, mais c'est conforme à la volonté de mon père. Et il dit, son père, c'est celui dont ils font profession d'être les représentants sur la terre, n'est-ce pas? C'est Dieu qui me montre ce que je dois faire. C'est pas moi, c'est Dieu. Vous êtes en train d'accuser Dieu. En fait, si vous m'accusez, vous accusez Dieu. Si vous accusez Dieu, vous m'accusez. Il dit, et l'autorité que mon père m'a donnée ne se limite pas à la guérison des malades. J'ai même le pouvoir de ressusciter les morts. Il dit, il savait très bien, il avait eu Lazare juste avant. Hein? En effet, il dit, comme le père ressuscite les morts et les fait vivre, le fils fait ce qu'il veut. Il fait vivre ce qu'il veut. Oh. Et vous savez comment ils prennent ça? Comme une menace. Vous voyez, quand on est tordu, plutôt que de se réjouir qu'il a le pouvoir de ressusciter les morts, eh bien non, ils voient ça comme une menace. Il se fait Dieu, il les menace, parce que s'il peut faire vivre qu'il veut, ça veut dire qu'il peut faire mourir qu'il veut. Attention, si vous continuez, je vous fais crever. Ça a l'air de dire ça. Pour eux, ils pensent ça comme ça, parce qu'ils ne pensent pas que Dieu est bon. Quand ils voient ça, quand ils voient la justice de Dieu, ils croient que Dieu est dur. Mais aucune de ces lois n'est dure. Jésus, un jour, il va dire, mais ce n'est pas Dieu qui est dur, c'est vous qui êtes dur. Ces lois ne sont pas mauvaises, c'est vous qui êtes mauvais. D'ailleurs, les lois ont été faites pour les gens mauvais comme vous, pour que justement les autres puissent vivre un peu tranquilles. Mais c'est un blasphémateur fou, ce mec-là. Ça leur fait péter la cervelle, ils n'arrivent pas à y croire. Et Jésus continue, parce qu'il ne s'arrête pas là. Il continue. Et de plus, le jugement des gens m'a été confié. Vous vous rendez compte, un bonhomme, un barbu, là, avec sa robe, il est malade, et le jugement des gens m'a été confié. Et nul ne peut honorer le Père autrement qu'en m'honorant moi. Oh, il aggrave son cas, mais dur, 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 on dirait qu'il fait exprès. Et il va encore plus loin. Mon royaume n'est pas limité à la terre, ni même à la tombe. Le salut de tous ceux qui sont déjà morts dépend de moi. Voilà ce qui déclare aux oreilles terrifiées de ces religieux remplis ras-bord de doctrines restrictives. La vérité solennelle, c'est que leurs reproches, même, je peux vous dire, c'est déjà maintenant, les morts vont bientôt entendre ma voix. Et je vous l'ai dit, l'heure vient, c'est maintenant où les morts entendent la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'entendront vivront. Quoi, les morts vivront? Tu touches à quelque chose de tabou. Les morts, on n'a même pas le droit de toucher un mort, on est impur si on touche un mort. Et toi, tu dis, c'est quoi? Tu parles de quoi? Dieu est le Dieu des vivants, et toi, tu viens nous parler du Dieu des morts. C'est abominable. Il dit, vous voulez me tuer? Vous ne le pourrez qu'à moins que je vous en donne la permission. À moins que je me soumette à vous, volontairement. En effet, il dit, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Ils sont stupéfaits. Ils n'ont jamais entendu ça. Jamais auparavant. Jamais quelqu'un avait dit des choses pareilles. Ils n'avaient jamais entendu, ils n'avaient jamais lu une doctrine. Doctrine, parce que pour eux, à partir du moment où on dit quelque chose, ça devient une doctrine. Ça ne venait pas des scribes, ils connaissaient bien. Ça ne venait pas des pharisiens, ça ne venait pas des sadducéens, ça ne venait pas des esséniens, ça venait d'où cette histoire? Qu'est-ce qu'ils nous racontent là? Alors Jésus dit, oh, mais vous étonnez pas comme ça. Faut pas vous étonner ce que je vous dis. Car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie, et ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement. Alors là, en plus, ça met division entre eux. Parce qu'il y en a qui croient que c'est les Sadducéens, ils ne croient pas dans la résurrection des morts. Alors ils résurrection, il n'y a pas de résurrection. Il les tourne en bourrique. Il les tourne en bourrique, commence à chicaner entre eux. Oui, non, mais il a raison, la résurrection. Mais tiens, il n'y a pas de résurrection. Et il commence à se chicaner parce qu'il sait très bien que tous ces religieux benets, ils sont tous en chicane les uns contre les autres et tout. Et il s'amuse avec ça, il les touille encore un peu pour les tourner en ridicule avec leurs interprétations. Ils croient ce qu'ils veulent, ils prennent, ils trient, ils enlèvent et tout. Et Jésus leur rappelle qu'il n'est pas un doudingue, mais qu'il est reconnu par des gens très importants. Il leur dit, Jean-Baptiste, par exemple. Tout le peuple prenait Jean-Baptiste pour un grand prophète, sauf eux. Ils l'avaient fait massacrer en combinant avec Pilate. Vous vous rappelez l'histoire? Ce Jean-Baptiste. Et puis, tout à coup, Jésus, après s'être bien moqué d'eux, il change de ton, et là, il les condamne catégoriquement. Catégoriquement. Il dit, vous sondez les Écritures, la Bible, vous sondez les Écritures, vous pensez, parce que vous pensez trouver la vie éternelle dans les Écritures, mais les Écritures, elles parlent de moi, elles rendent témoignage de moi. Mais moi, je vous connais, vous n'avez pas l'amour de Dieu. Ce que vous aimez, c'est les honneurs, ce que vous aimez, c'est les titres, ce que vous aimez, c'est être assis sur les estrades devant tout le monde, ce que vous aimez, c'est les grades, c'est être reçu aux premières places dans les banquets, c'est ça que vous aimez, vous promener avec vos grandes robes et frimer comme ça, en faisant croire aux gens que vous avez un pouvoir supérieur aux autres, que vous avez reçu le pouvoir des idioties. Mais vous rejetez celui qui vient au nom de quelqu'un qui est infiniment plus grand que toutes vos écoles, infiniment plus grand que toutes vos sociétés. Moi, je viens au nom du Père, au nom du Suprême. Alors voilà, ils révèlent la cause de leur ignorance. Ils veulent rester ignorants. Il leur dit, voilà pourquoi vous êtes ignorants. Parce que vous ne cherchez pas vraiment à servir Dieu. Vous dites que vous êtes serviteur de Dieu. Vous n'aimez pas ni Dieu, ni les gens. Vous n'aimez que vous-même. Puis il marque une pause, il les regarde, puis il dit, j'ai l'autorité de vous juger. Cependant, dit-il, en se regardant les ongles, ce n'est pas moi qui vous jugerai, ce sera quelqu'un d'inférieur à moi. C'est Moïse qui va vous juger. Quoi? Moïse est inférieur à toi? Alors là, vraiment, tu es Belzébuth, tu es le diable, tu es possédé, c'est pas possible. Oui, ce sera Moïse en qui vous dites croire qui vous jugera. Il leur jette ça à la figure. Et tous les faits de sa puissance accusatrice, il leur met tout ça dans la tronche. Car si vous croyez vraiment Moïse, vous ne pourriez que croire en moi parce que Moïse parle de moi. Il prophétise à mon sujet, il annonce ma venue, mais vous ne croyez pas dans ses écrits. Comment alors pourriez-vous croire dans ce que je vous dis et dans ce que je suis? C'est impossible. Mes frères et sœurs, Jésus est gentil. Dieu est bon. Mais il n'est pas tenu de se laisser toujours maltraiter par les méchants. De temps en temps, il te leur fout de ses baffes. Mais c'est un véritable plaisir, c'est un régal. Il ne les laisse pas dire tout ce qu'ils veulent. Ces méchants religieux qui cherchaient les poux dans la tête de Jésus, de ce Jésus qui venait de parler et la puissance divine était rentrée dans les cellules de cet homme paralytique, réparant toute chose dans ce corps, lui permettant de se lever, d'être guéri, de marcher sans douleur. Ce Jésus-là, il lui cherche des poux dans la tête pour des conneries. Quelle honte! Quelle honte! Jésus est le Seigneur de tout et il dit, je suis le Seigneur du sabbat, je fais du sabbat ce que je veux. Le sabbat, je l'ai créé pour l'homme, pas pour que l'homme soit esclave de vos trucs. Et Dieu va plus loin que ses lois quand vous vous servez des lois pour les tordre afin d'être méchant contre les gens. Et il provoque le miracle d'amour. Il guérit, il pardonne, il sauve. Il fait tout ça, et tout ça, ça sert à condamner tous ces pourris. Parce que eux qui parlent tellement bien, ils ne peuvent même pas faire la moitié de ça. Alors arrêtez de prendre Dieu pour un rigolo, s'il vous plaît, vous les religieux qui m'écoutez, et qui êtes un peu choqués ce matin. Et puis vous qui souffrez à cause de cette race mauvaise, maudite que sont les religieux, levez-vous et marchez, bougez, quittez-les, foutez le camp, laissez-les dans leur temple et dans les machins, laissez-les, sortez de là, allez ailleurs, bougez, ne restez pas à porter leur fardeau, portez le fardeau de Jésus, il est doux et léger, son fardeau à lui. Le Shabbat, c'est un fardeau doux et léger, et tous les fardeaux que Jésus mettra sur vos épaules sont doux et légers. Ne portez pas autre chose que ce que Jésus vous dit de porter. En l'occurrence, il a dit « prends ton lit ». Ce n'était pas un lit comme le mien qui pèse je ne sais pas combien. C'était juste une natte, ce n'était pas impossible. Eh bien, ce que Dieu vous demande de porter, ce n'est pas impossible. Si vous voulez faire tout ce que la religion vous dit de faire, c'est impossible. Alors les gens se sentent pécheurs, et puis ils vont se repentir, et puis ils retournent pécher, puis ils reviennent se repentir. Ils en vivent de ça. Ils en vivent de ça. Ils ne vous aiment pas. Ces religieux ne vous aiment pas. Ils font du prosélytisme juste pour se faire du pognon. Plus on a de gens, plus on a de pognon. Vous comprenez? Plus on a de gens, plus on a de pognon. Ils veulent avoir des gens pour qu'on puisse dire « Ah, vous voyez quelle belle cathédrale. Regardez cette belle église. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est chic. Nous avons la plus belle église de la ville. Et nous voyons toutes ces dames, tous ces messieurs qui vont là-dedans, qui vivent comme des païens toute la semaine, et puis qui viennent là avec leurs beaux atours. Oh, comme c'est beau, leurs belles églises resteront sur la terre. » Les milliards qu'ils mettent là-dedans. Les milliards. Je ne parle pas que des catholiques, hein. Les milliards qu'ils mettent là-dedans, dans leur super construction, dans leur méga concert d'émotions stériles, les millions qu'ils mettent là-dedans. Et ils font en tout cas rien avec cet argent pour soulager ceux qui sont dans la souffrance. Ça fait 2-3 ans que je prêche au sujet de... Nous sommes entrés dans le quatrième sceau. Je vous annonce ce que la Bible dit prophétiquement. Qu'un quart de la population pendant notre époque, pendant notre génération, va mourir par la peste, par la famine, par la guerre, selon ce qui est écrit. Ne croyez pas. Ils continuent à faire des méga réunions qui coûtent des millions, des millions, des millions, pendant que un sixième de la population est en train de mourir de faim. Alors, je ne veux pas dire qu'ils s'en foutent, qu'un sixième de la population est en train de mourir de faim. Mais un sixième de la population, c'est déjà presque ce fameux quart. Vous voyez ce que je veux dire, frères et sœurs? S'ils croyaient ce que la Bible dit, ils feraient ce que la Bible dit. Dieu dit jamais d'aller faire des grands concerts. Bien sûr que c'est bien d'aller faire des grands concerts. Mais quand ça coûte des millions, là, je ne suis pas d'accord. Nous, on va aller faire un concert là-bas à Ramongo avec les frères du château. Ça va être super, on va avoir 5000 personnes, mais ça va nous coûter quoi? Notre billet d'avion qu'on va se payer nous-mêmes à force de travailler, ça va nous coûter quoi? La bouffe qu'on va manger là-bas, c'est-à-dire des boîtes de raviolis Buitoni, voilà, c'est tout. Ça ne va pas nous coûter des millions. Voyez, vous comprenez mes frères et sœurs? Déjà une personne sur six souffre de la faim à l'heure actuelle. Et nous, tout petits, minables, poussés par le Saint-Esprit, nous allons distribuer des vivres en Afrique, minable, tout petit, avec ce que nous pouvons, et l'aide de Dieu qui nous donne au-delà de même ce qu'on arrive à croire. On n'aurait jamais cru qu'on aurait pu le faire. On nourrit des centaines de personnes pendant des mois et des mois et des mois. Et on arrive à créer des petites entreprises qui donnent du travail à des familles et nous guérissons des malades par la foi. On voit les paralytiques marcher, les sourds entendre, les muets parler, les aveugles voir. On le voit. Et nous nous trouvons face à ces enfarinés de religieux efféminés qui nous reprochent nos points de doctrine. Non, mais ça ne va pas la tête. Non, mais ça ne va pas le cœur. Il y a quelque chose qui est anormal là. Jésus est gentil. Moi aussi. Il travaille. Moi aussi. Mais franchement, tant pis pour les vierges folles, on ne va pas s'attendrir. Passons à autre chose. Ne nous arrêtons pas à ça. Ils n'arrêteront pas la parole de Dieu. Ils n'arriveront pas à nous arrêter, ni en parlant méchamment de nous, ni en cessant de nous soutenir financièrement dans nos ministères, ni en nous salissant, parce que Dieu est avec nous et il le prouve. Il accomplit des merveilles. Ils s'en foutent que les aveugles voient. Jamais personne ne dit quelque chose à ce sujet. Par contre, alors ma doctrine, eux, les boiteux, les paralytiques marchent, les muets parlent, les sourds entendent. Moi, je suis dans la joie. Jésus était tout content. Il faut toujours qu'ils viennent tout gâcher. Ceux qui sont dans la tombe entendent la voix du Seigneur. Et déjà, plus de 120 millions de morts ont été baptisés au château Sanctuary après avoir entendu la voix du Fils de Dieu dans le séjour des morts. Blasphème, hérésie! Criez plus fort! Haïssez-nous encore plus! Vous ne faites que confirmer que ce que les méchants ont fait au maître, ils le feront aux disciples corrects selon Luc 14, 33. Depuis 40 ans que je prêche l'évangile, il ne s'est pas passé un mois sans qu'il y ait des miracles. Il ne s'est pas passé aussi un mois sans qu'il y ait des agressions vitriolées de ces religieux. Alors Jésus n'était pas impressionné par eux. Juste, il allait ailleurs. Moi, je suis encore impressionné. Ça me fait drôle, ça me choque, et j'attrape mal à la tête comme mercredi passé. Non, mes frères et sœurs, oublions ça. Next, comme disait l'autre. Servez Dieu le plus fidèlement que vous pouvez. Vous serez persécutés, on dira toutes sortes de faussetés sur vous, toutes sortes de mal. Mais Jésus dit, mais réjouissez-vous. Il faut que j'arrive à me réjouir de ça. Il faut vraiment prier pour moi pour que j'arrive à me réjouir de ça, que je ne m'englue pas là-dedans. Réjouissez-vous, c'est plutôt bon signe, dit le Seigneur. Les religieux vous jugent, vous condamnent, allez ailleurs. Au suivant, comme dit la chanson, quittez-les. Il y a tant de gens qui souffrent, il y a tant de malheureux à qui vous pouvez apporter du bonheur avec le talent que vous avez. Laissez-les tomber avec leur prétendue sainteté, avec leurs expériences pseudo-spirituelles stériles. Laissez-les tomber. Votre Père travaille jusqu'à maintenant, vous aussi travaillez, même le jour du sabbat. Amen. Il y a quelques années, alors que le prophète nous avait dit qu'il fallait que nous sortions de toutes ces dénominations religieuses, les frères et sœurs de la communauté, vous m'avez demandé, mais pourquoi tu continues à toujours aller prêcher dans ces églises? Pourquoi finalement? Ils te font du mal, ils te font du tort, tu y vas par amour, tu les enseignes, tu guéris leurs malades, et puis ils continuent, ils te crachent dessus. Et puis je disais, oui, mais... il faut le faire, il faut leur donner, il faut leur apporter, il faut leur dire, il faut leur montrer la puissance de Dieu. Je crois toujours ça. Mais là, je suis à un moment, je suis à un tournant de ma vie où j'ai besoin d'être fortifié par le Saint-Esprit parce que vraiment, j'en ai ras-le-bol de cette race de vipères. Alors, priez pour moi afin que je trouve encore la force d'aller parce que ce n'est pas pour eux que je vais, c'est pour ceux qui souffrent parmi eux afin de leur dire. Sortez du milieu d'elle afin de ne pas participer à ses mauvaises œuvres et de ne pas vous trouver condamnés lors du jugement au sujet de leurs propres péchés. Voyez, mes frères et sœurs, vous vous posez la bonne question. Moi, je fais les choses comme je crois qu'il faut les faire, mais nous avons besoin de nous soutenir les uns les autres, de prier. Priez pour moi, pour ce ministère, afin que je puisse l'accomplir encore plus fidèlement et puis que j'arrive à passer par-dessus toutes ces gens. Je suis un homme sensible. Et ça me fait terriblement souffrir, ça me rend malade physiquement. Je ne suis pas Jésus, hein. J'arrive pas encore à passer par-dessus et à plaisanter. J'arrive à les niaxer, ça c'est sûr, mais j'arrive pas à passer par-dessus. Après je pense, je réfléchis, ça me rend malade. Priez pour moi, j'ai besoin de vos prières, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Jésus, je te demande vraiment de nous garder dans ta paix, parce que je sais qu'il y a tant de gens qui souffrent. Je me rappelle de cet homme qui souffrait, qui était malade, et dont personne ne s'occupait. Tout le monde l'avait laissé tomber. Tout le monde allait à l'église. Tout le monde allait à l'église parce qu'il y avait Jésus. Alors tout le monde allait écouter Jésus. Et puis les portes étaient fermées, bouchées par toute la foule. Et puis les fenêtres étaient bouchées par toute la foule. On ne pouvait plus entrer. Jésus était là au milieu. Mais toi, tu savais qu'il y avait ce paralytique qui était à 3 rues plus loin, sur sa natte, tout seul, abandonné. Heureusement, il n'y avait pas que toi qui le savais. Il y avait aussi des amis. Ils ont été chercher cet homme, essayant d'entrer dans cet endroit, dans cette église où se trouvait Jésus. Ils ont vu qu'on ne pouvait pas rentrer, ils ne pouvaient pas rentrer. Alors ils ont une idée. Ils sont montés sur le toit, ils ont cassé le toit. Cassé le toit de l'église. Cassé le toit. Il y a des morceaux de plâtre qui sont tombés sur Jésus qui était là. Quel blasphème. Non, c'était un péché d'amour qu'ils ont fait en cassant, en bousillant, en faisant du vandalisme. Un péché d'amour. Jésus, voyant leur foi, ô Seigneur, tu as vu leur foi. Tu as vu leur foi. Et tu as guéri cet homme. Tu as guéri cet homme. Et puis tu en as profité aussi pour niaxer les religions en disant, qu'est-ce qu'il est le plus difficile? De guérir un paralytique ou de dire, tes péchés te sont pardonnés? Oh, merci Seigneur pour tout ton humour. Merci Seigneur pour ta prise d'autorité ferme, claire en face de cette race de vipères qui sévit encore aujourd'hui. Merci Seigneur, aide-nous à être comme toi. Aide-nous à être comme toi, gentil avec ceux qui souffrent, leur apportant le bien dont ils ont besoin, mais étant intraitable avec ceux qui salissent ton nom en se servant justement de ton nom. Père, aide-nous dans le nom de Jésus, je te le demande. Aide-moi. Amen. Amen.